BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
BFM Bourse est 100% applaudi. On est parti pour 2h30. Et ça y est, c'est la cloche à Wall Street. 2h30 d'autonomie totale au rythme des marchés. Et Wall Street, là, qui tout de suite vient nous sonner les cloches au sens propre. Et notre Dream Team pour aller accompagner, analyser surtout ce début de séance aux États-Unis là, en direct. Elle est là, Karen Georges pour Ecofi. Bonjour Karen, ravi de vous retrouver.
Bonjour Guillaume.
Et en fil rouge, il est là aussi, Antoine Larigauderi. Bonjour Antoine.
Bonjour Guillaume.
Premiers instants de cotation. Alors, c'est une séance intéressante, importante pour SK Hynix qui va faire ses premiers pas sur le marché américain. On en parlera dans un instant. Comment se comportent d'abord les trois indices US aujourd'hui, Antoine?
C'est très partagé. Hein. Plus 0,08% pour le S&P 500, 7549 points, plus 0,29 pour le Dow Jones. On est à 52 639. Le Nasdaq en légère baisse, moins 0,1% à 26 181 points. Mais autour de la planète, la tech est appelée à sous-performer légèrement aujourd'hui. Moins 0,19% pour l'Euronext Tech Leaders. Le CAC en très légère hausse, plus 0,02%. Mais ce sont surtout les valeurs industrielles qui sont plutôt entourées aujourd'hui.
Karen, effectivement, les valeurs industrielles dont on va parler dans un instant, on parlera de vos choix d'allocation pour ce deuxième semestre. D'abord, donc, SK Hynix fait ses premiers pas sur le marché américain. Alors, sous forme d'ADR, dès qu'on a la cotation, bien sûr, on vous en fera part. Ça pourrait ne pas avoir lieu tout de suite, dans les toutes premières minutes. C'est pas rien, Karen. Hein. C'est quand même la plus grosse introduction d'un groupe étranger à Wall Street.
Exactement, c'est l'ADR la plus importante qu'il y ait jamais eu dans l'histoire de Wall Street. Donc, il faut savoir qu'il y a eu une demande qui a été plus de 7 fois sursouscrite, donc pour plus de 26 milliards de dollars. Et finalement, il n'y a pas beaucoup d'acteurs de la mémoire qui sont importants. Hein, donc, bien sûr qu'on connaît Micron, SK Hynix, donc c'est une capi d'ailleurs assez proche de Micron, avec finalement un triplement du cours de bourse donc à Séoul en Corée du Sud. Et on l'oublie, donc cette capi donc qui est à peu près de 900 milliards d'euros et pourtant un peu moins de 30 milliards de dollars de profit en 2025. Donc c'est vrai qu'il y a un niveau de valorisation qui est très élevé sur les acteurs de la mémoire, mais avec une croissance bien sûr qui est là au rendez-vous. Mais c'est en effet exceptionnel avec une très forte demande, ce qui explique d'ailleurs peut-être pourquoi la tech est en petite baisse. C'était la même chose avec SpaceX, c'est-à-dire parfois on fait un peu de place pour les c'est justement la place à des ADR de SK Hynix.
Oui, oui, une levée de 26 milliards et demi de dollars, c'est plus qu'Alibaba en 2014. Hein. En 2014, Alibaba avait levé non pas 26 milliards et demi, mais 25 milliards. Donc voilà, cette IPO a été plus de 7 fois sursouscrite. C'est intéressant comme signal, Karen, parce qu'on se demandait si ce segment, les semi-conducteurs, les cartes mémoire, à son tour, étaient amenés à consolider, comme l'ont fait les 7 magnifiques depuis plusieurs trimestres. Non, l'intérêt est toujours là, manifestement. Et la question qu'on peut se poser avec SK Hynix, ce nouvel acteur côté Wall Street, c'est en termes de capi, est-ce qu'il va y avoir match avec les autres acteurs du secteur déjà coté aux États-Unis, Micron par exemple, est-ce qu'SK Hynix pourrait doubler rapidement Micron?
Alors ça reste une possibilité. Alors déjà les deux sont très proches. Et puis l'autre point qui est favorable à SK Hynix, c'est qu'ils ont aussi, un peu comme Micron l'a annoncé il y a quelques jours, donc des gros investissements aux États-Unis. C'est le cas aussi de SK Hynix. Hein. Il faut savoir qu'à peu près 68% du chiffre d'affaires du groupe coréen est exposé aux États-Unis, qui vont construire une nouvelle usine dans l'Indiana. Donc le volontarisme, on va dire, d'investissement sur le sol américain est un point très positif pour eux, parce que comme on le sait, l'administration Trump pousse pour avoir des investissements finalement sur le sol américain, qui sont très importants. On l'a vu d'ailleurs avec l'annonce d'Apple, avec l'accord avec Broadcom il y a quelques jours aux États-Unis. Donc SK Hynix suit ce scénario, même s'ils ont aussi un gros site qui est prévu avec Samsung en Corée. Donc vu que la capi est assez proche, hein, donc Micron est à peu près à 100 milliards d'euros de plus que SK Hynix, hein, si on convertit. C'est assez proche, c'est possible, surtout si la dynamique de croissance est, on va dire, surprend positivement encore plus que celle de Micron.
Oui, SK Hynix, donc l'ADR coté à partir d'aujourd'hui à Wall Street, est-ce qu'on a le prix là? Est-ce qu'on le voit coté cet ADR pour l'instant, toi?
Non, pour l'instant ça cote pas. Il doit y avoir beaucoup de choses à régler en termes de compensation, d'ordre et tout pour avoir un prix fixe. On a juste le prix d'intro, 149 dollars, mais ça ne bouge pas pour le moment.
Ce qui est frappant, c'est qu'on s'est interrogé pendant longtemps sur les risques pour les indices américains d'une hyper-concentration, d'une hyper-dépendance envers les 7 magnifiques. Et puis là, on parle quasiment plus des 7 magnifiques alors que leur poids reste important. Mais on a découvert ce chiffre sur les 7 magnifiques. On n'en parle plus, et en termes de sous-valorisation par rapport au S&P, on est sur des plus hauts de 10 ans. C'est-à-dire que les Mag 7 affichent leur plus forte décote en 10 ans face au reste du S&P, ce qui n'empêche pas le S&P depuis un mois de gagner 3%. C'est intéressant ça, parce qu'on craignait que l'hyper-concentration, l'hyper-dépendance aux 7 magnifiques, ben, le rendait le S&P vulnérable. Là, les 7 magnifiques font plus grand-chose, mais le S&P progresse quand même. C'est une leçon positive qu'on peut tirer de tout ça, Karen?
Ah oui, non. Alors, c'est vrai qu'on en a parlé la dernière fois, je pense, ensemble. C'est vrai que c'est assez surprenant que ce groupe qui constitue à peu près 39% de l'indice S&P, mais qui représente 34% des bénéfices, ait finalement ce retard, même si on oublie qu'il y a des fortes divergences au sein du MAG 7, hein. Donc, les performances peuvent être très, très différentes à l'intérieur de ce groupe éponyme. Et, l'autre point, c'est que, comme vous le disiez, donc, on se paye 22 fois 2027 en termes de PE contre à peu près 20 fois pour le S&P. Donc, en effet, toute la prime a quasiment disparu. Sachant qu'on attend pour le trimestre à venir plus de 30% de croissance des bénéfices, donc des bénéfices par action, contre à peu près 22% pour le S&P. Donc c'est vrai que là, il y a une forme d'anomalie. Et idem Nvidia, hein, si on prend ce cas emblématique, hein, qui a perdu à peu près $1 trillion de sa valeur, le titre se paye moins cher qu'à peu près la moitié des titres du S&P. Ce qui est là aussi quelque chose qui est assez atypique. Alors pourquoi ? Donc ça, c'est plutôt bon signe en termes d'opportunité pour la suite par rapport au MAG 7. Ce qui est plutôt inquiétant, comme vous le disiez, c'est l'hyperconcentration. Un chiffre qui symbolise bien cette hyperconcentration. Lorsqu'on, justement, je vous parlais des attentes de 22% de croissance des BPA, la moitié vient des semis. Enfin, essentiellement des semis, de la tech, mais surtout les semis, la moitié. Donc, 11% en points vient des semi-conducteurs. Donc, en effet, cette concentration, hein, ce groupe qui représente un peu plus de 22% de la capi du S&P est en effet de plus en plus concentré, en plus, sur des sous-segments, soit très liés à la mémoire, soit liés aux équipementiers semi-conducteurs. Donc, ça, c'est pas très sain. Donc, voilà. Donc, il y a du bon et du moins bon, on va dire, dans ce cas de figure.
Wall Street ouvre donc très indécis. Le S&P 500 gagne 0,1, le Nasdaq est stable. Les publications vont démarrer pour de bon la semaine prochaine. On doit quand même regarder aujourd'hui Delta Airlines, parce que Delta publie avec un peu d'avance sur les autres groupes. Le titre est intéressant quand même, parce que Delta, on est dans l'univers aérien, un groupe bien sûr très dépendant des cours du kérosène et du pétrole. Le titre perd 2,3% après la publie. Est-ce que ça vous semble logique, Karen?
Alors, a priori, c'est pas logique, mais il y a peut-être un sell on the news, c'est-à-dire que peut-être ce qu'on appelle le buy side, donc les acteurs comme les gérants, donc pas les analystes, hein, donc les sell side en anglais, attendaient finalement des résultats qui étaient plutôt corrects, hein, une croissance de l'ordre de 13%, avec une guidance, donc des prévisions qui sont maintenues, qui sont pourtant au-dessus du consensus, donc des analystes. Donc c'est vrai que c'est surprenant. Alors peut-être ouvrir un peu, peut-être flat, peut-être pas en baisse. Peut-être que le marché est peut-être inquiet de la destruction de demande, parce que le CEO, lors de sa conference call, donc le call avec les analystes, a indiqué que les prix resteraient élevés. Et même si la facture de fuel reste moins importante que ce qui était anticipé, on pourrait peut-être craindre finalement trop d'optimisme sur la guidance de Delta. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un peu de faiblesse sur le cours. Mais des résultats, qui étaient plutôt en ligne, voire un peu mieux que ce qui était attendu.
Delta, donc, en baisse de 2%. La semaine prochaine, les banques américaines vont commencer à publier, on en parlera dans un instant. Mais plus globalement, est-ce que cette saison, alors on regardera la tech aussi, mais sera surtout marquée par la frilosité des consommateurs? Hier, Pepsi s'est exprimé là-dessus. Pepsi a publié ses résultats qui ont été sanctionnés parce que Pepsi a expliqué que sur le segment Amérique du Nord, l'inflation pesait sur le panier et le volume d'achat des consommateurs. Est-ce que c'est ce qui nous attend? C'est ce qui marquera, d'après vous, cette saison qui arrive?
Alors, c'est un bon point. C'est pour ça que la dernière fois, je crois qu'on avait parlé lors des résultats que les groupes de consommation très exposés aux ménages étaient plus frileux sur la hausse des prix, parce que justement, ils indiquaient que ça détruisait la demande, hein, surtout des groupes de retail américains, les Dollar Tree, les Walmart, etc. Donc, c'était très compliqué pour eux de faire passer des hausses de prix. Et donc, il y avait vraiment un véritable risque sur les marges. Et donc, en effet, Pepsi, qui a une très faible croissance, hein, un peu plus de 2%, indiquait que la croissance était plutôt molle aux États-Unis. Et même certains groupes qui continuent, on va dire, des promotions importantes, hein, on pense à Nike, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est poussif sur le consommateur américain, donc surtout pour les groupes qui sont très B2C. Donc ça laisse peut-être craindre un peu de faiblesse sur certains groupes qui sont très exposés justement aux États-Unis, sachant que pourtant un groupe comme Levi's qui a publié il y a quelques jours, eux la crainte c'est plus l'Europe. Donc c'est vrai que c'est pas forcément homogène selon les groupes, mais il y a plutôt ces craintes sur la consommation, au niveau des banques. Là on attend plutôt une bonne saison des publications des banques, parce que les commissions sont attendues en hausse à double chiffre, sachant qu'en plus le ce qu'on appelle le primaire, donc tout ce qui est IPO etc. Donc les nouvelles émissions, ça a été très costaud, hein, que ce soit sur la dette ou bien sûr sur les IPO qu'on a eu comme SpaceX notamment. Ça, c'est très favorable aux banques d'investissement, aux grandes banques d'affaires américaines, ainsi que justement, on va dire, une belle recovery des crédits. Et ça, c'est plutôt positif aussi pour elle, avec un environnement de taux d'intérêt à long terme qui est resté plutôt élevé, puisqu'on est à peu près à 4,5 sur le 10 ans américain.
Oui, c'est donc les banques américaines vont publier. JP Morgan qui doit ouvrir le bal, ce sera mardi. Ce sera très, très intéressant. Ouais, exactement, le 14 juillet, voilà, pour entamer, ouvrir le feu d'artifice. Au-delà de tous ces enjeux très court terme, pour ce deuxième semestre qui démarre, Karen, qu'est-ce que vous allez regarder? Quels sont les principaux moments qu'il faudra avoir en tête, voilà, au moment où ça arrivera, ne pas être surpris et qu'il faut d'ores et déjà savoir préparer?
Alors, il y a bien sûr la réserve fédérale. On l'a vu il y a quelques jours avec le ministre de la Fed, qu'il y a encore des divergences au sein des membres et aussi une communication qui, donc maintenant, a vocation à changer progressivement, à être un peu plus faible si Kevin Warsh reste dans le même, on va dire, le même canal. Et donc là, il faudra bien surveiller, bien sûr, ses décisions en termes de politique monétaire et donc les taux longs, parce que c'est vrai que si on repart vers les 5%, ça pourrait être un peu plus douloureux pour les marchés actions. Donc ça, c'est bien sûr le premier point. Le deuxième point, c'est la géopolitique. Le troisième point, c'est bien sûr les résultats, là, que ce soit le T2 ou le T3. Donc, il faut savoir qu'en général, c'est une période où on révise plutôt à la baisse les résultats. Là, c'est exceptionnel, ça a été l'inverse. On a révisé à la hausse de plus de 4% les résultats attendus pour le T2 notamment. Donc, c'est vrai qu'il y a une année, on va dire en termes de bénéfices, assez exceptionnelle attendue aux États-Unis. Donc, c'est vrai que ça laisse peu de marge de manœuvre aux mauvaises surprises, aux mauvaises nouvelles. Donc, ce sera particulièrement scruté, ainsi que bien sûr l'IA, hein, on revient toujours à l'IA, parce qu'il faut rappeler quand même que les capex qui sont dédiés à l'IA représentent 40% des capex du S&P, donc sur un petit nombre d'entreprises. Donc c'est vrai que la moindre nouvelle, on l'a vu hier, avant-hier, sur Meta, sur peut-être ce projet d'avoir sa propre puce qui s'appelle Iris, qui pourrait aussi donc à revigorer sur une seule séance les semi-conducteurs, on voit qu'il y a une forme de fragilité par rapport au news flow sur l'IA qui pourrait être déterminante, notamment aussi avec les IPO encore à venir d'Anthropic et d'OpenAI.
Oui. Merci Karen. Karen George avec nous pour Ecofi. Wall Street a ouvert donc mitigé, le Nasdaq -0,1. On n'a toujours pas la cotation de SK Hynix pour son arrivée à Wall Street. L'ADR, oui, il faut ajuster les prix encore. Le S&P est stable. Et à Paris, le CAC 40 stable également. C'est une séance pour rien un peu partout aujourd'hui. Il nous rejoint, Kevin Lenoir, directeur associé d'Avantgarde Family Office. Bonjour Kevin.
Bonjour Guillaume.
15h41, quelques minutes à passer ensemble. Pareil, pour offrir un peu de perspective à ceux qui nous suivent. Vous allez rendre votre verdict face au marché dans un instant. Ce verdict que vous allez rendre, ce moment qu'on va vivre ensemble, est-ce que, Kevin, vous l'assumez vraiment?
Oui, je l'assume totalement.
Alors, on vous écoute.
Eh bien, nous disons qu'au second semestre, les marchés ne récompenseront plus les bonnes nouvelles, ils sanctionneront les déceptions.
D'accord. Les marchés, au second semestre, ne récompenseront plus les bonnes nouvelles, ils sanctionneront les déceptions. Donc, plus de capacité à réagir à la hausse, seulement à réagir à la baisse.
En tout cas, un peu moins. Il faut avoir en tête que le premier semestre a été quand même relativement exceptionnel et résilient, bien entendu, avec des marchés actions notamment qui sont pour beaucoup au plus haut historique de ce point de vue-là. Et il y a des conditions qui l'expliquent, hein, bien entendu. Une croissance macroéconomique qui est très résiliente, une inflation qui devrait se normaliser, espérons-le, malgré le coup de semonce du printemps, des bénéfices par action, bien sûr, qui sont assez exceptionnels. Et puis, globalement, des banques centrales qui restent fermes sans trop l'être. Et donc ça, c'est plutôt effectivement la bonne nouvelle. Le problème, il est justement là, c'est que dans un tel scénario, eh bien, ce retour à la normale, c'est la normalité. Vous savez, parfois, on parle un peu de scénario Goldilocks de ce point de vue-là. Et ça, c'est très intéressant parce que dans ce type de scénario-là, dans ce type de marché-là, eh bien, ce que l'on juge, c'est que le potentiel de revalorisation, il est relativement limité quant aux bonnes nouvelles. Par contre, le coût du risque, le risque de la déception, lui, il augmente très fortement. Et donc, ce que nous disons, c'est attention à la volatilité, même si nous pouvons rester positifs.
Parce qu'on sort d'une phase un peu trop Goldilocks, voilà, sur l'approche des entreprises. Donc là, attention au moment où justement, là, il y a cet adage qui dit le réel, c'est quand on se cogne. Exactement. Là, on risque de se cogner au réel avec les publications qui arrivent.
Publication, on a deux éléments en fait. Macro, micro, on peut même regarder les deux. Publication, très intéressant. Je pense qu'il y a un exemple qui donne tout cette semaine, c'est Samsung. Samsung, c'est assez représentatif de ce risque-là. On a une publication trimestrielle qui est somme toute, me semble-t-il, d'excellentes factures, au moins dans l'absolu. Rappelons que le résultat bénéficiaire, il augmente quasiment de 19 fois en glissement annuel sur un an. 1800%, c'est assez exceptionnel. Et pourtant, on a une séance boursière de lundi, moins 7%, et Samsung, ça doit être moins 20% depuis son pic du mois de juin. Pourquoi ? Parce que déjà, les fondamentaux étaient très bons et étaient attendus de ce point de vue-là. Les résultats passés étaient déjà dans les cours. Et puis surtout, cette publication de Samsung, finalement, elle était relativement attendue. Il n'y a pas de bonne surprise. Pas de bonne surprise. Sanction immédiate quasiment pour le marché. Ça, c'est très illustratif, effectivement, de ce que l'on peut craindre, effectivement, de ce point de vue-là au second semestre.
D'accord. Ce qui est arrivé à Samsung risque de donner là et d'être facteur anticipé, qui permet d'anticiper ce qui attend les entreprises. Mais est-ce que les attentes sont si élevées que ça pour cette saison de publication? Parce que j'accepte votre discours si les attentes sont irréalistes, mais le sont-elles irréalistes?
Elles ne sont pas irréalistes. Vous avez entièrement raison. On dit simplement qu'elles sont élevées de ce point de vue-là. Ça dépend évidemment des secteurs, hein. C'est très net. Évidemment, si vous projetez sur un secteur technologique dont vous venez de parler, le secteur par exemple des semi-conducteurs, les attentes elles sont très fortes. C'est un segment qui est en revalorisation massive depuis maintenant 2 ans. La moindre déception dans les carnets de commandes, dans les marges potentielles de ce type de segment-là, elles peuvent les amener au tapis. Donc encore une fois, elles ne sont pas trop élevées, mais à mesure que vos valorisations elles progressent, eh bien un pendant à ça assez naturel, c'est que vos hypothèses elles sont de plus en plus tendues, et autant dire que la moindre déception, le choc est d'autant plus violent, on se cogne au réel comme vous le dites très bien.
Là vous avez cité la tech, bien sûr. Voilà. Mais quand on regarde les autres secteurs, parce que là on parle beaucoup des États-Unis, mais on peut aussi réfléchir en matière ici, la locale européenne. Voilà. Est-ce que quand on regarde au-delà de la tech, et c'est vrai de certaines variations absolument hallucinantes, on se dit ah attention parce que le marché, ce que vous nous disiez, sera plus prompt à cogner ceux qui déçoivent qu'à saluer ceux qui surprennent positivement.
C'est la même chose en Europe. On a certes une valorisation qui est moins bien élevée, mais là aussi, hein, tout est intégré dans le cours, on ne l'apprend pas. Et le scénario, encore une fois, il est tendu de ce point de vue-là. Si on rebondit sur l'exemple européen, c'est quasiment plus macro pour moi. Le problème aujourd'hui, prenons l'exemple de la guerre au Moyen-Orient. Cette guerre au Moyen-Orient, si on juge qu'aujourd'hui, ce que l'on vit cette semaine avec le retour des frappes, c'est un soubresaut de la négociation, on peut se dire, comme au printemps, on va sortir par le haut de cette négociation, le marché va rebondir. Je ne le crois absolument pas. Pourquoi ? Parce que justement, le retour à la normale, ça fait déjà 3 mois qu'il est dans les cours. Et donc, de ce point de vue-là, le potentiel retour au réel, c'est cette asymétrie sur le Moyen-Orient. Vous avez un retour des frappes qui est beaucoup plus fort. Le marché n'attend absolument pas une nouvelle explosion à la hausse des prix pétroliers, par exemple, bien entendu. Et donc, là aussi, l'Europe pourrait se cogner au réel. Donc, sur l'ensemble des marchés, effectivement, ce retour, cette asymétrie, il faut l'avoir en tête, je crois.
En Europe, ASML va publier mercredi prochain. Oui. Ce sera intéressant de suivre ASML. Aux États-Unis, on attend sur la tech 62% de croissance. Des bénéfices, 62%, oui. Et dans l'énergie encore plus 120% du fait de la hausse des cours de l'énergie. Là, sacré,
c'est assez exceptionnel.
Ouais. Les secteurs, donc, on en parlait à l'instant, et au-delà des secteurs, il y a le contexte. Macroéconomiquement, est-ce que vous vous dites qu'en plus le vent souffle contre les marchés ou qu'au contraire, bah, ça tient, qu'on va peut-être fin d'année ou l'an prochain vers, pourquoi pas, des baisses de taux avec des effets de base sur le pétrole un peu plus favorables, et donc cette phase un peu difficile que vous attendez sur les résultats du deuxième trimestre, la façon dont les marchés vont les digérer sera sans doute transitoire et provisoire, sera pour mieux rebondir après. Est-ce qu'on peut l'imaginer comme ça?
Oui, absolument. Et je tiens à insister là-dessus, nous ne sommes pas du tout négatifs sur le second semestre. Disons simplement attention, on est dans le calme aujourd'hui, on considère que tout est bien aligné, et c'est dans ce cas-là, comme vous le dites très bien, qu'on se cogne au réel, c'est-à-dire attention au retour de bâton. Aujourd'hui, est-ce que macroéconomiquement, les choses sont solides? Complètement. Quand on voit la résilience aujourd'hui, y compris de la consommation d'ailleurs dans le monde entier, on peut globalement estimer qu'effectivement, non seulement cette fin de phase au Moyen-Orient, elle permet d'avoir une très grande sensibilité au rebond potentiel, et puis encore une fois, quand on va derrière ces craintes que j'évoque, parce qu'il faut bien les évoquer, on voit qu'en l'occurrence, on a des secteurs qui sont extrêmement solides, des entreprises qui sont certes chèrement valorisées, mais qui, sur les publications, arrive encore à délivrer. Vous citez ASML, ça va être très représentatif de ce que le marché attend. On doit être à 40 fois les bénéfices, peut-être qu'Antoine me corrigera, bénéfices anticipés. On est sur quelque chose d'assez exceptionnel, mais globalement, sur ces niveaux-là, on peut espérer effectivement qu'on matche les attentes.
La semaine prochaine, ASML publie, il y aura aussi TSMC, hein, sera intéressant. Au-delà de tout ça, quels grands enjeux allez-vous suivre? Il y a plein d'enjeux politiques, il y aura les élections au Brésil, là, cet automne, par exemple, il y a le début de la campagne présidentielle en France, on suit les taux français, hein, qui ont tendance à se tendre quand même structurellement. Christine Lagarde qui dit qu'elle pourrait quitter la tête de la BCE de façon anticipée parce qu'elle veut participer à la campagne. Enfin, qu'est-ce que vous allez particulièrement suivre, vous ?
Ce que l'on va suivre, je ne me répéterai pas, mais la saison des publications, oui, bien entendu, on vient de le dire, ça c'est vraiment le premier point. À court terme, encore une fois, la politique monétaire pour nous, elle va être fondamentale. Parce que vous le dites très bien, globalement, il y a certes ce potentiel retour du Moyen-Orient, mais il n'y a pas le droit à l'erreur de ce point de vue-là. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, on se pose la question de est-ce qu'on va encore augmenter les taux en Europe et est-ce que la Banque Centrale Américaine va les augmenter d'ici la fin de l'année ? Revenons 6 mois en arrière, on imaginait 1, 2, 3 baisses de taux pour les États-Unis et on attendait Kevin Warsh plutôt accommodant. Donc on a complètement renversé le discours, ça se passe plutôt très bien du côté américain, disons-le, mais ça c'est un vrai sujet, il ne faut pas à mon avis que les banques centrales soient trop fermes vis-à-vis du marché, c'est très important de ce point de vue-là.
Antoine.
Une question qui est peut-être liée, on a pas mal de banques qui commencent, et à JP Morgan en particulier, qui commencent à dire attention, second semestre, il pourrait y avoir un retour de balancier violent autour du dollar, que le dollar d'un seul coup décroche et que les effets de change pourraient causer des frottements pour énormément d'entreprises, notamment au milieu des flux commerciaux, et sans même parler du détroit d'Ormuz. Est-ce que ça pourrait être un enjeu aussi, une espèce de retour de balancier autour du dollar et donc possiblement de l'euro et des monnaies émergentes?
Totalement, absolument. C'est un vrai sujet évidemment pour les entreprises que l'on va suivre. Elles l'ont déjà vécu l'année dernière. Rappelons que la peine était très lourde. Hein. On doit être à 13 points de perte pour les entreprises de ce point de vue-là si elles ne s'étaient pas couvertes. Donc évidemment, ça va être un vrai enjeu. La bonne nouvelle de ce côté-là, c'est peut-être le retour d'expérience. C'est-à-dire qu'on sait que l'année dernière a tellement été douloureuse. Là aujourd'hui, de retour sur le 1,14, sans acheter déjà un scénario autour de 1,23 par exemple sur l'euro-dollar, on se dit que remonter progressivement sur les 1,20 peut être beaucoup plus digeste pour les entreprises. Et puis je vais me placer du côté des investisseurs, de nos clients. Oui, là aussi c'est un sujet extrêmement important dans les portefeuilles parce que il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de peine si vous n'étiez pas couvert l'année dernière, là aussi dans les portefeuilles. Et donc il est très clair comme enjeu pour nous en tant que gestion privée, c'est typiquement la devise parce que oui, le dollar aujourd'hui va devoir être couvert. On est sur des zones qui sont aujourd'hui assez confortables pour se faire et des prix de couverture qui sont assez resserrés du fait de l'écart de taux. Donc profitons-en.
Vous abordez l'été là avec vos clients, hein, Avantgarde Family Office. Qu'est-ce qu'on dit à ces clients pour l'été? Surtout, regardez plus tout ça. Même vous, comment est-ce qu'on aborde une phase estivale, celle qui arrive? Je vous pose la question parce que l'été est souvent extrêmement volatile.
Absolument.
Il y a des enjeux aussi là sur le niveau des taux japonais, par exemple. Et c'est parfois du Japon que l'été les problèmes viennent en bourse. Comment on fait là pour gérer effectivement les portefeuilles de ses clients en plein été?
Je dirais qu'en interne, évidemment, il faut rester attentif. On l'est tous, bien entendu. Hein. Il y a une continuité de ce point de vue-là sur l'été. Vous le dites très bien, on a souvent moins de volume dans l'été et ça a très bien été dit. On a souvent des publications qui sont en tout cas des attentes bénéficiaires qui sont plutôt à la baisse de ce point de vue-là. Donc beaucoup effectivement d'attention de ce côté-là pour être réactif. Il ne faut absolument pas considérer comme l'été comme une morne pleine dans nos portefeuilles. Absolument pas. Bien au contraire, d'ailleurs, ça peut être un très bon sujet d'investissement. Et puis l'autre sujet, c'est plutôt de la discipline, si vous me permettez. On a, en tout cas, en interne, une habitude de gestion qui est particulière. On se repose sur des fondamentaux. On passe beaucoup de temps à sélectionner nos dossiers. Donc, il ne faut pas, ici, par contre, réagir de manière un peu erratique, j'allais dire, de ce point de vue-là. Il faudra être concentré, vérifier si un dossier volatile l'est parce qu'il y a une cassure structurelle ou est-ce qu'on est simplement dans du conjoncturel. Si c'est du conjoncturel, encore une fois, profitons-en. Je pense notamment à certains dossiers qu'on a en portefeuille depuis de longues années. Et de ce point de vue-là, à part rupture structurelle, il n'y a pas de raison d'en changer. Donc, ce que l'on dit, c'est soyons attentifs, soyons opportunistes, si on peut l'être. Par contre, ne paniquons pas de ce point de vue-là. Il faut garder une discipline forte en portefeuille. Les valeurs que l'on a, on souhaite les accompagner pendant des années auprès de nos clients.
Kevin Lenoir, et merci beaucoup Kevin de nous avoir accompagné pour Avantgarde Family Office. Il est fort, hein, il nous accompagne régulièrement. Salut Kevin, bon été du coup. Et rendez-vous à la rentrée, le CAC 40 est en baisse. Dans quelques minutes, valeur ajoutée sera 16h10. On parlera d'un acteur coté en bourse bien positionné sur... Vous savez, quand vous prenez l'autoroute et que vous payez, mais automatiquement, vous n'avez plus besoin de vous arrêter, tout ça se fait tac d'une traite comme ça, automatique, c'est magique. Et bien, c'est un acteur de ça que Guy Lussac va nous présenter tout à l'heure, un acteur technologique, donc du paiement automatisé sur les autoroutes. Le titre s'assire côté à Madrid, ils nous diront pourquoi ils y croient particulièrement, parce qu'il y a un champ de développement très important aussi désormais sur cette thématique aux États-Unis. Rendez-vous à 16h10 et s'assire est très très positionné, bien positionné sur ce marché américain, évidemment gigantesque potentiellement. Le CAC stable, ArcelorMittal est en tête du CAC grâce à un relèvement d'opinion, plus 5,8%, Le Grand en revanche en terne rouge, moins 2% quasiment pour Le Grand.
BFM Bourse, Culture ETF.
Pour laisser faire les ETF à votre place, Julie Cohen-Horton et ses experts vous accompagnent dans cet univers des fonds indiciels. C'est chaque vendredi Culture ETF. Ah, c'est le dernier de la saison là. Bonjour Julie.
Oui, on est triste.
Mais oui, parce que Culture ETF comme BFM Bourse seront en mode concentré, hein, réduit à partir de la semaine prochaine. Et tout l'été, on se retrouvera pour les émissions traditionnelles dans leur durée complète à partir de 15h30, donc le 24 août prochain. Julie, donc, vous nous emmenez dans le monde, le joli monde, le magic world des ETF.
Et des ETF, même climat, on se pose la question, est-ce qu'il existe vraiment des ETF en faveur du climat ou est-ce qu'il s'agit de purs produits marketing? Eh bien, aujourd'hui, on va en parler avec Jean-François Bay, qui est directeur de Boursofirst. Bonjour Jean-François.
Oui, bonjour Julie, bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous Jean-François. Donc Jean-François, on va faire un petit bilan d'étape à mi-année. Que nous disent les flux d'ETF depuis le début de l'année sur l'appétit réel des investisseurs pour donc les ETF climat?
Alors il est plutôt élevé, c'est une des catégories, qui une thématique qui collecte le plus depuis le début de l'année. On a, pour vous donner une idée, à peu près 60 ETF sur représentant une vingtaine de milliards sur la catégorie climat, que ce soit obligations et actions, et la partie actions représente la moitié du marché, une trentaine d'ETF et 10 milliards d'euros. Et c'est cette catégorie qui a collecté à peu près 4 milliards d'euros depuis le début de l'année. Donc on voit qu'il y a un engouement sur cette thématique.
Alors, ce qu'on voit aussi, hein, Jean-François Fleury, ce sont des labels, le label CTB pour la transition, PAB pour l'alignement sur l'accord de Paris. Qu'est-ce qui différencie pour un investisseur ces deux niveaux d'exigence dans la gestion de portefeuille ?
Oui, en fait, ce qui se passe quand on parle climat, c'est un petit peu obscur. On ne sait pas trop où investir et ce que ça représente concrètement. Vous avez un peu ces deux indices CTB, c'est Climate Transition Benchmark. Donc, comme son nom l'indique, c'est transition. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'aider des entreprises, des anciennes entreprises, on va dire, à transiter et à émettre moins de carbone, puisqu'on sait que c'est le carbone qui impacte le changement climatique. Le réchauffement climatique est lié à l'émission de CO2. Ça a été prouvé par Guy Callendard, un ingénieur anglais, en 1938, donc ça date pas d'hier. Et donc ça, c'est plutôt des anciennes entreprises qui consomment moins qui émettent moins de carbone. Et le deuxième indice, ce sont des indices qu'on appelle PAB pour Paris Aligned Benchmark. Donc, ce qui suivent les accords de Paris, les accords de Paris s'engagent justement à une neutralité carbone en 2050. Et donc là, les entreprises vont d'une part s'engager à émettre 50% au moins d'émissions. Il y a aussi un plan d'émissions de réduction annuelle de 7% minimum. Et puis, il y a aussi l'exclusion des énergies fossiles. Donc, c'est un indice qui est plus tourné cette fois-ci vers les solutions qui aident les entreprises et notre monde à aller mieux, à émettre moins de carbone versus les premiers indices qui sont plus de transition des anciennes entreprises.
Jean-François, on voit aussi émerger des ETF thématiques spécialisées sur les énergies renouvelables et sur l'économie circulaire. Intéressant, énergie renouvelable, économie circulaire. Comment est-ce qu'on choisit ? Comment est-ce que, voilà, on doit trouver les critères pour sélectionner tel ou tel ETF ?
Oui, alors c'est une bonne question. On retrouve un petit peu ces deux univers, c'est-à-dire que quand on est sur des univers larges pour aider des anciennes entreprises à transiter, on imagine qu'on aide des entreprises cotées traditionnelles, je ne sais pas, Vallourec qui produit des tubes, ils ne vont pas arrêter demain et on va les aider à émettre moins de carbone. Ben à ce moment-là, c'est des indices qui sont et des ETF qui sont relativement classiques, qui reproduisent un petit peu les grands indices MSCI EMU, MSCI World ou MSCI US. En revanche, quand on est sur des thématiques, on est sur des thématiques qui, là, apportent des solutions. Vous avez parlé des énergies renouvelables pour le mix énergétique. On pourrait parler de new food, de nouvelles alimentations, nouveaux transports, nouveaux modes de transport, économie circulaire, justement, retraitement des déchets. Et donc, on est sur des ETF qui vont être beaucoup plus pointus, spécialisés, des solutions, donc des entreprises beaucoup plus jeunes et donc un niveau de risque qui va être plus élevé.
Après, la question, c'est celle du greenwashing. Il y a des risques de greenwashing avec parfois la transformation de ETF technologique en ETF climat. Bon, c'est vite dit, quoi, ETF climat. Comment les investisseurs peuvent-ils s'assurer de la réelle durabilité dans l'ETF ?
Oui, c'est une bonne question parce qu'en fait, c'est vrai que si on se dit j'investis dans une entreprise qui émet moins de carbone, je vous donne un exemple, le MSCI US Climate Transition, donc qui aide les entreprises à transiter, on va avoir une surreprésentation des entreprises tech aux États-Unis et donc les top 10, ça va être Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet. Et là, vous me dites, tiens, je retrouve les 7 magnifiques. Et finalement, c'est un indice, c'est un peu du Nasdaq ripolliné. Donc, c'est forcément, faites bien attention justement à ces sociétés et ces indices qui sont en transition. Vous risquez de retrouver des entreprises assez classiques, donc être un petit peu déçu par rapport à un engagement que vous souhaitez apporter. Dirigez-vous vers des ETF, cette fois-ci, plus de solutions. Je pense qu'il faut balancer, équilibrer son portefeuille. C'est bien d'aider les entreprises traditionnelles à émettre moins de carbone et c'est bien aussi d'investir dans des nouvelles solutions. Mais avec, vous avez raison, le greenwashing est au coin de la rue.
Et alors, si on regarde, Jean-François, la performance, la composition de ces fonds aujourd'hui, est-ce que investir climat, ça signifie forcément sacrifier la performance ?
Non, alors j'allais dire oui et non. À long terme, l'indice MSCI EMU Climate PAB versus MSCI EMU est vraiment très très proche des uns des autres. On a depuis le lancement en 2013 pratiquement 9% de performance dans les deux cas. C'est proche de 10% de performance par an dans les deux cas sur les 5 dernières années. Donc on voit que c'est quand même, on n'a pas au détriment de la performance investi et favorisé le climat. En revanche, sur des périodes plus courtes, on peut avoir des écarts forts. Je vous donne un exemple sur les 6 derniers mois ou la dernière année. Vous doutez bien que quand le pétrole flambe ou quand les investisseurs s'engagent dans la défense ou d'autres thématiques qui n'ont rien à voir avec le climat, bah forcément, vos indices climat vont un peu souffrir, ou en tout cas en relatif, vont être un petit peu en dessous des indices traditionnels.
Merci beaucoup Jean-François Bay, directeur de Boursofers, d'être passé nous voir.
Bon été à vous Jean-François et à vous Julie Cohen-Hurton.
Oui, vous aussi.
On se retrouvera à la rentrée. L'architecte de BFM Bourse, parce que vous la connaissez à travers Culture ETF et Culture Bourse, mais l'architecture de l'émission, le séquençage, tous ces invités qui se relaient, ils sont des dizaines et des dizaines. C'est Julie qui porte tout ça sur ses épaules et c'est grâce à vous Julie que cette émission très très dense tourne au quotidien. Salut.
Ah, vous m'aidez beaucoup.
Ouais, non mais franchement sans vous il y a rien quoi. Donc merci beaucoup. Bon été, bien mérité. Dans un instant, on retrouvera Antoine bien sûr pour le suivi. Alors Desca Enix, l'ADR va-t-il nous offrir un prix? C'est la question, parce que SK Hynix fait ses premiers pas aujourd'hui sur le marché américain. C'est la plus grosse intro étrangère de l'histoire à Wall Street. On regardera comment donc l'ADR évolue. Et puis à Paris, une introduction confirmée la semaine prochaine. On y consacre un article tiens, sur bfmbourse.com, le slip français qui confirme son intro le 14 juillet, donc mardi prochain. Il va lever 13 millions d'euros. La CAPI devrait dépasser les 19 millions. Détails de cette opération à suivre sur notre site. On se retrouve dans un instant pour la suite de BFM Bourse. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.